1000 man i. Si des souvenirs qu'il portait n'ont pas fini par le submerger aussi.
Voilà les mots d'un compagnon d'infortune, Charles Conrault, qui était avec Primo Levi dans le camp d'Auschwitz. Primo Levi est né il y a 100 ans. Il s'est donné la mort en 1987. Écrivain juif italien rescapé d'Auschwitz où il est déporté en 44. L'auteur de « Si c'est un homme » écrit en 1946, nous interroge aujourd'hui encore sur la force du récit. À Paris ce week-end, une série de rencontres est organisée autour de cette figure et de cette question. Comment dire l'indicible? Avec nous aujourd'hui, Philippe Ménard, professeur des universités en littérature générale et comparé à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, directeur aussi de la revue Mémoire en jeu, qui consacre ce mois-ci un grand dossier à l'écrivain italien. Il est par ailleurs l'auteur de la biographie de référence sur Primo Levi. Primo Levi, le passage d'un témoin, publié chez Fayard et réédité chez Fayard Collection Plurielle. Bonjour à vous, Philippe Ménard.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. 100 ans après, Primo Levi semble être né pour devenir ce témoin majeur des camps nazis et de cette barbarie. C'est une histoire beaucoup plus complexe, au fond, que vous avez, vous, souhaité raconter à travers cette biographie, vaste biographie, en revenant sur la vie de cet homme, de cet écrivain, de ce résistant aussi, à sa manière, de ce grand témoin.
Oui, j'ai essayé de, d'une certaine manière de déconstruire une image trop simplifiée de Primo Levi, qui correspond à évidemment un aspect très important de son existence et de sa pensée, pour en montrer les différentes facettes, hein, et aussi pour mettre en évidence que, d'une certaine manière, lui rendre hommage, c'est aussi regarder avec lui la complexité de son œuvre et aussi par moments la douleur. Le travail d'écriture qui l'a mené et qui l'a conduit à devenir non seulement un témoin, mais aussi un penseur du témoignage, de la mémoire et de cette expérience. Donc voilà, c'est qu'il y avait quelque chose qui dépassait le témoignage et qui allait vers une véritable pensée de ces questions.
Puisqu'on commémore aujourd'hui le centenaire de sa naissance, est-ce qu'on peut commencer par raconter peut-être l'avant? Primo Levi, né en 1919 à Turin. Dans quelle famille, quelle est cette enfance qui le portera jusqu'à nous après?
En fait, voilà, il vit dans une famille juive très intégrée, hein, et finalement, il y a un certain nombre d'ailleurs de nos grands témoins, on peut dire Imre Kertész, Jean Améry, qui sont issus de familles qui très intégrées dans la société. Et il naît en 1919, donc 2 ans après, Mussolini se retrouve au pouvoir. Les premières années, on peut dire, son enfance, bon, se fait sous l'éducation fasciste. Il a la chance après d'être dans un lycée où il y a un certain nombre de professeurs qui sont hostiles au fascisme. Et donc qui donne déjà certainement un tour critique à leur approche de l'éducation. Mais jusque dans les années 30, bon, Primo Levi a l'enfance d'un enfant intégré dans une famille. Et puis à partir des années 30, ça va crescendo évidemment, petit à petit, des lois, des mesures font que, jusqu'en 1938, des lois raciales font que les Juifs sont deviennent la cible raciale du fascisme mussolinien, qui vient peu à peu s'accorder à l'antisémitisme nazi. Alors, il va pouvoir s'inscrire de justesse en 1937 à la faculté des sciences pour suivre une formation de biologiste et de chimiste. Bon, la chimie, voilà une des facettes qui est, on peut dire, à mettre en miroir avec le témoignage, hein, c'est Primo Levi chimiste, quoi. On peut difficilement faire l'impasse de, on peut dire, le dispositif de la chimie qui lui a permis à la fois d'observer le camp, qui lui a permis à la fois de décrypter la réalité et de la retranscrire à travers un certain nombre de ses écrits qui ont été publiés après « Si c'est un homme ». Donc il se retrouve de justesse, sa sœur ne pourra pas entrer à l'université, mais lui se retrouve de justesse à pouvoir entrer à l'université. Ceci dit, quand il a terminé sa thèse, qui a la plus haute note, eh bien, il y a marqué sur son diplôme de race hébraïque et il n'a aucune mention. Donc il est frappé progressivement l'espace de liberté se restreint jusqu'à ne plus exister. Il va se retrouver avant 1940, avant fin 43. Donc avant l'invasion par l'armée allemande de l'Italie et la restitution au pouvoir par les nazis de Mussolini, il va se retrouver pendant ces années 40, 42, 43, petit à petit à penser avec un groupe d'amis juifs comment réagir, comment organiser la résistance, quoi faire, et voyant bien que autour de l'Italie la situation devenait non seulement catastrophique du fait de la guerre, mais qu'aussi les déportations des juifs étaient sur tous les pays.
Parce qu'il est déporté tardivement, hein. C'est 1944. Avant cela, comment a-t-il traversé la guerre? Il y a eu, vous venez de l'évoquer, aussi ces années ou ce moment de résistance qui ont compté dans sa vie.
Voilà, alors en fait, l'histoire de l'Italie, elle bascule en septembre, début septembre, 8 septembre 1943, quand, après la destitution de Mussolini, l'armée allemande envahit le nord de l'Italie. Et là, avec cette invasion, remet Mussolini au pouvoir, hein, c'est la fameuse République sociale italienne, là c'est la chasse aux juifs, hein, c'est la chasse aux juifs, c'est les arrestations, c'est la déportation du ghettodrome, c'est aussi un certain nombre d'ailleurs de membres de sa famille, hein, plus ou moins proches, qui seront même assassinés en Italie, et Primo Levi, sa sœur et sa mère, ils sont restés toujours très 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 proches, se réfugient dans les Alpes. Et à ce moment-là, bon, Primo Levi, qui avait déjà un certain nombre de contacts avec des amis résistants, avec des contacts qui étaient aussi qui organisaient ne serait-ce qu'une presse résistante, se retrouve dans un maquis, enfin se retrouve dans les Alpes, au contact de différents, on peut dire, maquis, de partisans. Hein, et c'est à cette occasion qu'il, alors sa mère et sa sœur qui est aussi impliquée dans la résistance, retournent à Turin, et sa mère et sa sœur, donc, elles seront à l'abri, on peut dire, et vont traverser la guerre cachée, à l'abri, et lui, il se fait arrêter le 13 décembre 1943 par une espèce de légion de fascistes qui entoure le petit hameau dans lequel il se retrouvait, et qu'il arrête avec un certain nombre de résistants. De là, il est descendu et interrogé à Aoste, donc ville de la frontière italienne, et voilà, il se déclare juif plutôt que résistant, et il est interné à Fossoli, qui est le strict équivalent de Drancy, hein, du Drancy français, ou de Malines en Belgique, et de là, effectivement, il est déporté avec 650 autres juifs arrêtés. Il arrive donc après un voyage extrêmement pénible de 4 jours à travers l'Europe à Auschwitz, et au moment de la sélection, en fait, ils ne sont que 124 à ne pas être assassinés dans les heures qui suivent. Tous les autres, donc, sont assassinés dans les chambres à gaz d'Auschwitz.
Avec une durée de vie très courte, hein, pour ceux qui ont échappé à cette sélection et qui sont envoyés à Auschwitz, dans ce camp de concentration, camp de travail également. Comment va-t-il survivre?
Alors, je pense que c'est même une question à laquelle peut-être lui-même aurait été incapable de répondre, parce que il y a une part de hasard, un ensemble de concours de circonstances qui font que certains déportés ont pu survivre et d'autres pas. Ceci dit, si il a une formation de chimiste, hein. Donc il a une formation de chimiste. Donc il passe. D'ailleurs, ça fait un chapitre de Si c'est un homme est consacré à cet examen. Il passe un examen qui lui permet d'avoir, bon, une situation un peu moins dure. Il reste un esclave, hein, à la solde des chimistes professionnels allemands pour lesquels il travaille, et donc il a cette possibilité de se retrouver un peu à l'abri. Bon, alors ça, c'est déjà une chose. L'autre chose, il faut dire que petit gabarit, mais contrairement à son enfance, qui était une enfance un peu maladive, Primo Levi a pratiqué la montagne et il a une espèce d'endurance et il est capable de supporter des conditions difficiles. Et je pense que c'est un des éléments qui a pu, au milieu de tous les facteurs qui auraient contribué à ce qu'il meure, qui a pu le faire survivre.
Janvier 45, Philippe Ménard, les Soviétiques entrent dans Auschwitz sur la libération et la sortie des camps. Je vous propose d'écouter le récit qu'en faisait un compagnon d'infortune de détention de Primo Levi qu'on entendait en ouverture de cette émission, Charles Conrault, dans un film provençal, Charles-Jean Primo Levi, sorti en 91.
J'ai l'impression qu'on ne réalisait pas, enfin moi personnellement, je ne réalisais pas que nous venions de sortir de l'enfer. Moins que Primo Levi, parce que Primo Levi, il y avait plus d'un an qu'il était là-dedans, lui. Les malades, on peut dire qu'ils n'avaient qu'une peur, c'était qu'on les abandonne. Puisque nous étions trois à pouvoir nous débrouiller, trois à tenir debout, Primo, Arthur, et moi qui suis le Charles de cette histoire. Il y avait déjà des morts un peu partout. Le camp n'était plus entretenu. On allait chercher des planches de lit dans les bâtiments qui étaient évacués pour faire du feu à l'extérieur. Il faisait moins 20 et la neige couvrait le sol. Heureusement, c'est la neige qui nous a permis d'avoir de l'eau.
Voilà. Comment s'est passé le retour ensuite, Philippe Ménard? Est-ce que ces hommes, on les attend? Est-ce que ces hommes, on les accueille? Est-ce que ces hommes et ces femmes, on leur demande tout de suite de raconter ce qu'ils ont vécu, ce qui s'est passé, de témoigner? Ou est-ce qu'au contraire, on les cache? On ne veut pas vraiment les voir ni les entendre?
Alors, bon, le retour, déjà, avant le retour, il y a toute l'épopée du retour, puisqu'il la raconte dans La Trêve, en 1960, qui est publiée en 1963. Mais déjà, il consigne, parce qu'on reviendra certainement sur ce rapport à l'écriture de Primo Levi, il consigne ses épisodes. Il met 9 mois avant de rentrer. Bon, alors, on l'attend. Enfin, sa mère, sa sœur l'attendent, évidemment. Ses proches l'attendent. Ses proches qui, eux, n'ont pas, comme c'est arrivé à certains, ou été assassinés en tant que juifs, ou alors ont été assassinés en tant que résistants. C'est le cas d'un de ses amis qui l'avait pratiquement éduqué à la montagne, Silvio Del Mastro. Et bon, il y a des organisations en Italie, il y a des organisations de résistants qui sont des organisations de résistants qui accueillent les déportés. Donc la société est divisée. Il est très proche d'une grande association à laquelle il participe qui s'appelle l'ANED, qui met en place un système pour essayer d'avoir des nouvelles de ceux qui sont pas encore revenus. Donc il y a quelque chose qui est quand même présent pour l'accueil de ces déportés qui sont encore dont le statut est encore confusément qualifié de déportés, bon, évidemment leur statut de juif déporté n'est pas présent en tant que tel, donc il y a quelque chose qui reste encore confus. Ceci dit, il y a un accueil. Bon. Il y a un accueil qui se limite principalement à ses réseaux d'associations. Faisant que, quand il aura écrit Si c'est un homme, le livre va être refusé par les grandes maisons, et notamment Einaudi, qui va le republier évidemment après. Et il va être publié dans une petite maison d'édition, Da Silva, qui est une maison d'édition qui appartient à ce réseau. Donc il y a une écoute, il y a une attention, mais plutôt liée à un réseau qui se constitue de résistants et d'anciens déportés, mais qui n'infiltre pas, on peut dire, l'ensemble de la société. Donc voilà, il faut nuancer l'accueil. Il n'est pas négatif, on les cache pas, mais c'est vrai que la société italienne se reconstruit tant bien que mal après évidemment ces années de fascisme et toutes les rivalités qu'il peut y avoir encore. Et à ce niveau-là, ils ont très peu de place.
Vous évoquez notamment quand même ce retour au pays et cette étrangeté. Primo Levi et De Benedetti ressentent cette hémorragie de paroles, dites-vous, dont parle Robert Antelme à propos de son propre retour des camps. Ils sont bizarrement intégrables à cette nouvelle société, cette société qui doit se rebâtir avec quand même un besoin peut-être de communauté. Est-ce qu'ils vont, comme beaucoup, tenter de se regrouper, de former une communauté mémorielle entre ceux qui ont vécu la même chose?
Alors, c'est on peut dire un double phénomène. Il y a une communauté mémorielle, mais qui renvoie plutôt à ces associations, notamment l'ANED, qui est vraiment une très grosse association. Donc, on peut dire qu'il va tenir un discours sur la mémoire et donc sur les engagements, et qui va aussi intégrer ces déportés et ces déportés juifs qui ont pu survivre. Bon, donc quelques-uns ont pu survivre. À côté de ça, on pourrait parler d'une communauté testimoniale, parce que justement, avec Charles Conroux, avec Jean Samuel, hein, le piccolo de Si c'est un homme, les déportés essaient de savoir justement où, quand est-ce qu'ils sont rentrés, quand un tel est revenu, comment il est revenu, et ils se voient. Ils s'écrivent, ils se voient.
Qu'est-ce que c'est la différence entre une communauté mémorielle et une communauté testimoniale?
Mais parce qu'en fait, cette communauté testimoniale, elle ne s'institue pas dans un discours. C'est une communauté qui retisse un lien entre des individus qui ont subi un destin et qui vont se retrouver pour prendre soin des uns des autres, parce qu'évidemment c'est aussi une façon de dépasser l'événement que de retrouver ceux qui ont survécu.
Voilà, elle va se tisser entre les survivants, en somme.
Absolument.
Absolument. Vous évoquiez l'écriture, la place qu'elle a pu prendre. Très vite, dites-vous, il note, il écrit, il consigne. Et puis il y a ses poèmes qu'il va commencer à écrire très vite après son retour des camps. Pourquoi cette forme-là? Pourquoi les poèmes? Qu'est-ce qu'il enferme ou condense à l'intérieur de cela? Vous dites que c'est pas véritablement son retour à la vie qu'il signe à travers eux, mais plutôt l'expression de l'obsession des morts qui le hante.
Oui, c'est-à-dire que il faut sortir de cette idée d'une écriture qui serait résiliente et puis par laquelle on arriverait à surmonter non seulement ses propres douleurs, mais aussi les douleurs de ceux dont on a partagé ce destin ou cette privation de destin, pour reprendre les termes de Kertész. Et donc les poèmes sont des formes brèves, extrêmement condensées, qui contiennent en elles-mêmes cette expérience est une expérience qui est une expérience de déroute, de douleur, de perte, hein, de perte de ses proches, et qui est aussi qui vibre d'un nous collectif, c'est-à-dire qui vibre de justement cette communauté testimoniale qui est à laquelle les rescapés, hein, sont attachés. Et quand j'avais rencontré Jean Samuel, justement, il me montrait ça fait partie de ces liens qui s'essaient de retisser des textes que lui a envoyé Primo Levi dans sa correspondance, et qui sont des textes base de Si c'est un homme. Et donc, par ces formes brèves aussi, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, de la transition entre l'espace concentrationnaire et après avoir pu survivre à l'extermination, ben, il y a cette transition, mais qui n'est pas nécessairement une transition de bonheur, qui n'est pas portée par la joie, hein, de la liberté, qui est aussi une épreuve, l'épreuve d'un retour au monde qui est aussi très éprouvant.
Si c'est un homme, quand commence-t-il à l'écrire? Quand est-ce que ce livre, cette œuvre phare, ce monument de la mémoire prend forme?
Alors, il prend forme à plusieurs niveaux. On peut dire que y a une petite base se constitue d'un rapport qu'il a écrit avec Leonardo De Benedetti quand il était encore à Katowice dans un camp de transit. On lui demande un rapport, on leur demande un rapport, on peut dire scientifique, une espèce d'expertise sur la vie à Monowitz, hein, le camp d'Auschwitz où ils étaient, et ils le produisent. Et puis arrivé à Turin, il décide de le compléter et de le publier. Donc en le complétant, on retrouve des éléments du convoi, de déportation, de la fin des derniers jours d'Auschwitz. Et puis, vous parliez de la poésie, justement. Au début, il écrit la poésie, il écrit des poèmes, très denses, très forts. Et il y a une transition, là aussi, qui se marque par un abandon de la poésie. Et il commence à partir de janvier-février. Bon, ça coïncide avec la rencontre avec son épouse, enfin, celle qui deviendra son épouse. Il commence à écrire Si c'est un homme. Et il l'écrit à rebours. Il écrit les derniers chapitres. Et puis des derniers chapitres, il remonte, hein, il remonte comme une, comme jusque au début de sa déportation, jusqu'au convoi, au départ, enfin à Fossoli et au départ vers Auschwitz. Voilà. Donc à partir de début 1946, il commence à écrire par des textes brefs là aussi, hein, parce que si on regarde Si c'est un homme, c'est d'abord des textes brefs. Il commence à écrire les épisodes de sa déportation. De son internement.
Si c'est un homme, pourquoi ce titre, Philippe Ménard, vous qui êtes professeur en littérature, expliquez-le nous. Pourquoi ce présent? Pourquoi ce conditionnel? Pourquoi cette ambivalence?
Alors, c'est pas simplement un conditionnel, c'est qu'en fait, par une espèce de hasard, c'est un titre qui lui est imposé par sa maison d'édition. C'est sa première maison d'édition. Bon, après, bon, évidemment, il l'adopte. Bon, le si c'est un homme est difficile. Le si de si c'est un homme en italien est difficilement traduisible en français. C'est qu'en fait, on le retrouve dans son poème Schéma, hein, qui est à l'origine. C'est qu'en fait, si c'est un homme, tenez-en compte et essayez vous-même, vous qui êtes bien à l'abri dans vos foyers, de prendre la mesure de cette limite jusqu'à laquelle le système nazi, le système concentrationnaire et la terreur nazie ont poussé ces hommes, hein, à ne plus en être, juste d'une certaine manière. Et l'avant-dernier chapitre du livre, donc un événement qui, puisque c'est écrit à rebours, correspond à novembre 1944, se nomme le dernier. C'est l'exécution emblématique d'un résistant, à exécution sordide, puisqu'ils étaient pendus sur la place d'appel alors que tous les déportés devaient assister à leur exécution. Et là, Primo Levi dit, voilà, on était là, ce résistant a été pendu. Avant d'être pendu, il lui fait dire, je suis le dernier, hein, ich bin der Letzte, en allemand, il est écrit comme ça, et nous, on était là et on n'a rien pu dire parce que précisément, on nous a fait aller à la limite de l'humanité.
Ce livre, il l'écrit pour lui ou pour nous? Il l'écrit pour les vivants ou pour les morts?
Je dirais que Primo Levi témoigne pas pour les morts, mais il témoigne aussi pour les morts. Il témoigne pour les résistants dont il a fait partie, il témoigne pour les rescapés, puisque, comme je vous le disais, il a un constant échange avec ceux, les rescapés italiens et Jean Samuel, Charles Conrault. Donc il écrit, c'est un écrit où le nous, c'est une parole collective où qui est très importante. Donc ça c'est une première chose. Il écrit aussi avec son jeu de Primo Levi lui-même. Et puis il écrit pour transmettre aussi. Il s'adresse et ça c'est très important. Et ce sera encore plus important dans la nouvelle version de 1958, celle qu'on connaît, celle qu'on a lue, hein, parce qu'il y a qu'il va retravailler, où l'adresse, hein, la volonté de transmettre cette expérience à travers une écriture qui puisse être facilement communicable, devient un de ses grands principes d'écriture.
Votre biographie, Philippe Ménard, recèle d'histoires, d'anecdotes qui nous permettent de mieux comprendre à la fois l'histoire, le destin et la personnalité de cet homme éminemment complexe qu'était Primo Levi. Primo Levi, le passage d'un témoin. Vous racontez notamment comment il craindra au printemps 1970 d'être atteint de la maladie d'Alzheimer, fantasme avec lequel il va mettre en jeu sa capacité aussi à porter cette mémoire de sa propre histoire, notre mémoire aussi, et l'écriture comme acte de mémoire. On voit toute l'intention et l'importance qu'il investissait dans cet acte d'écrire. France Culture, il est 13h20 en compagnie de Philippe Ménard.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Primo, c'était une espèce de bouée à laquelle on se raccrochait parce que il avait si bien enregistré tout ce qui s'était passé, des choses qui vous paraissaient invraisemblables ou peu sûr, il suffisait de s'adresser à lui et il se rappelait tout, 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 tout.
Voilà, il se rappelait de tout et il était aussi blessé, porté par cette culpabilité du survivant. Vous racontez, comme beaucoup dans votre biographie, Philippe Ménard, que dans les années 70, la fatigue petit à petit le gagne, l'espoir décline. On sait qu'en 1987, il va se suicider. Est-ce que c'était pour oublier? Est-ce que c'était aussi parce que on peut mourir d'écrire? C'est la question que pose notamment la psychanalyste Rachel Rosenblum dans un livre paru aux Presses universitaires de France. L'écriture du traumatisme a-t-elle vraiment eu pour ces femmes et ces hommes un pouvoir salvateur? Question qui reste ouverte pour beaucoup. On va écouter Rachel Rosenblum à propos de Primo Levi et à propos de son recueil de poèmes à une heure incertaine.
Il a mis ce poème, qui est le poème du vieux marin de Coleridge, en exergue à plusieurs de ses livres. C'est quelque chose qu'il arborait comme ça, comme une carte de visite derrière laquelle il s'abritait dans nombre des interviews qu'il a données. Cette culpabilité d'être un survivant est quelque chose qui l'a certainement hanté. Elle a été beaucoup plus exprimée au cours des dernières années de sa vie, peu avant qu'il se donne la mort. Il était très déprimé, on le sait maintenant. Beaucoup de biographies ont paru, deux, en particulier celle de Myriam Anisimov, et il y a une autre aussi qui montre à quel point il était déprimé pendant les 3, 4, 5 dernières années de sa vie. Est-ce que ce poème est l'expression de sa dépression, ou est-ce que ce poème, encore une fois, là, l'a précipité encore plus dans la dépression? C'est là, évidemment, une des questions qu'on peut se poser.
Voilà, question que vous avez dû vous poser, Philippe Ménard, et question parallèle. Peut-on se débarrasser de l'horreur en témoignant? Peut-on se délivrer de ce souvenir en le posant sur le papier?
Alors, justement, Rachel Rosenblum a tout à fait raison de déconstruire un petit peu l'idée que l'écriture puisse être salvatrice. C'est pas le cas. L'écriture redouble l'expérience aussi de la douleur et de l'épreuve qui a été vécue. Et la réception même du témoignage a pas forcément été toujours très heureuse pour Primo Levi. C'est-à-dire que, bon, incontestablement, il avait un tempérament dépressif, mais on pourrait rajouter aussi la façon dont la société italienne, bon, on peut dire la société européenne, allant à travers les années 60-70, n'était pas là pour lui montrer à quel point, d'une certaine manière, les leçons du témoignage ou les leçons de la mémoire auraient pu permettre de redonner à ces sociétés un tour plus humain. Bon, une de ses facettes dans laquelle il était très investi était celle d'un intellectuel qui écrivait dans les journaux des chroniques. Et combien de fois il a écrit des chroniques pour dénoncer les vagues de porno nazis, pour dénoncer le terrorisme, pour dénoncer le négationnisme, pour dénoncer le révisionnisme, où il prenait position. Mais prendre position aussi, qui était une activité qui venait s'ajouter ou se surajouter à sa vie de chimiste et d'écrivain et de témoin, c'était aussi regarder la société avec, on peut dire, un regard très pessimiste. Comment des témoins qui ont vécu la terreur nazie, qui ont vécu la répression et la persécution fasciste, pouvaient voir les vagues de terrorisme des années 70 avec les bombes qui explosaient à Milan aussi de l'extrême droite et les attentats ciblés de l'extrême gauche? Comment est-ce qu'ils ont pu voir ça? Ils ont pu aussi voir ça comme quelque chose qui réfutait d'une certaine manière le message qu'ils avaient voulu transmettre.
Et vous racontez aussi, Philippe Ménard, comment le témoin a parfois mis dans l'ombre l'écrivain qu'était Primo Levi et la souffrance qu'il a pu aussi en éprouver. Oublier le passé, c'est se condamner à le revivre. Cette phrase célèbre de Primo Levi en dit long encore sur à la fois ce projet et la manière dont il mériterait d'être perpétué aujourd'hui. Est-ce qu'avant de se donner la mort, il avait symboliquement réussi à passer le témoin à la génération d'après, passer le témoin de la mémoire aujourd'hui? qu'aujourd'hui, certains luttent encore contre cet oubli, ou pire encore, peut-être contre la falsification de cette mémoire. Elle en a fait son combat tous les jours. La sénatrice à vie, l'italienne Liliana Segre. Un combat contre le racisme, l'antisémitisme et autres appels à la haine pour des valeurs de tolérance. Une parole pacifique après plusieurs décennies de silence pour s'être escapée d'Auschwitz.
La politique qui investit dans la haine est toujours une médaille à double face. Elle ne nuit pas seulement à ceux qui sont choisis comme cibles, mais elle incendie aussi les âmes de ceux qui vivent dans la rage, le désespoir et le mal-être. J'ai vécu dans ma peau combien il est facile de passer des paroles de haine aux actes. On m'a toujours appris que celui qui sauve une vie sauve le monde entier. C'est pour cela qu'un monde où l'on punit celui qui sauve des vies, au lieu de le remercier, me semble être un monde sans dessus-dessous. Je voudrais que le nouveau gouvernement ne naisse pas seulement de convenances politiques légitimes, mais qu'il naisse surtout avec la conscience du danger auquel on a échappé. De ce sentiment de soulagement que l'on ressent quand, arrivé tout au bord du précipice, on s'en recule juste à temps.
Voilà, parce qu'elle a voulu créer une commission au Sénat pour lutter contre la haine dans les mots et dans les actes. Elle est aujourd'hui menacée de mort. Liliana Segre est placée sous protection judiciaire. Ça en dit long sur la réalité aussi de la violence politique et l'état de nos sociétés aujourd'hui. Philippe Ménard, en Italie, dans les mémoires, quelle place occupe aujourd'hui Primo Levi? Est-ce qu'il est encore bien présent? Ou est-ce qu'à travers ce centenaire, il faut absolument réitérer l'appel à lire ou relire Primo Levi, à ne pas oublier?
Oui, non, mais c'est une question. C'est une question. Ça fait partie des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Hein, on va pas apporter une réponse comme ça toute faite. La chose est que il est à la fois présent et pas présent. Et je pense que c'est la question de la mémoire de la Shoah à travers toute l'Europe. C'est présent, c'est enseigné, mais en même temps, c'est comme si c'était présent dans des espaces qui étaient des espaces respectés, des espaces qui étaient portés par des valeurs éthiques. Mais à côté de cela, on voit bien que bon, en Italie évidemment, et je parlais du terroriste tout à l'heure, imaginons quel regard Primo Levi pourrait porter sur l'Italie actuellement, ou sur les dérives d'extrême droite, mais aussi présent en Pologne, en Hongrie et dans les pays de l'Est, et aussi dans nos propres pays avec la montée des extrémistes d'extrême droite. Donc le paradoxe, c'est que cette mémoire est présente, elle est très instituée, elle est enseignée. Mais à côté de cela, ça n'empêche pas les politiques d'aller vers les extrémismes et le populisme.
Merci beaucoup à vous, Philippe Ménard. Primo Levi, Le passage d'un témoin. Votre biographie est disponible dans la collection plurielle de chez Fayard. Je rappelle ce week-end donc à Paris, à la mairie du 3e, colloque, débat, rencontre, dire l'indicible Primo Levi, la force du récit, si vous pouvez y assister. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette longue et belle semaine. À Aurélien Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Laura Dutèche-Pérez, Sophie Marty et François Bréhu. Avec à la coordination programmation Mayan Escovic, à la réalisation aujourd'hui c'était Gilles Blanchard avec Alex Dang. Très bel après-midi à tous et bon week-end sur France Culture, bien sûr.